Séance technique rapide mais importante au Congrès ce matin. Les élus ont adopté un texte pour éviter au territoire d'être placé sous la tutelle de l'État. La Foi, Farino, Saraméa, Moindou accentuent leur lutte contre l'insécurité. Les quatre communes ont signé ce matin le contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. À l'étranger, le bruit de bottes s'accentue. Les USA seraient sur le point de frapper militairement l'Iran. Téhéran promet une riposte imminente. En métropole, les premiers chiffres de la délinquance en 2025. 13 des 18 indicateurs sont en hausse. Et puis en football, Lyon et Lille s'imposent ce matin lors de la dernière journée de phase de groupe de la Ligue Europa. Les deux clubs français poursuivent leur parcours dans la compétition, mais Nice, non, il est éliminé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Transparence qui fait son retour sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et pour ce premier numéro de l'année, vous recevrez Emmanuel Tchibaou.
Oui, c'est la rentrée du magazine Transparence, un peu avant la rentrée scolaire. Pour ce premier rendez-vous, c'est effectivement le député Emmanuel Tchibaou, président de l'Union Calédonienne, qui sera notre invité. Nous l'interrogerons sur le 56e congrès de l'UC qui se réunissait le week-end dernier et qui a vu sa réélection à la tête du parti, mais aussi bien sûr sur le positionnement de l'Union Calédonienne dans le processus institutionnel en cours. Beaucoup de questions à poser à Emmanuel Tchibaou, avec lequel on se retrouve à partir de midi. Ce sera juste après votre journal.
Et probablement aussi beaucoup de thèmes dans le club politique qui fera son retour à 16h45.
La rentrée aussi pour le club politique de Radio Rythme Bleu. Je serai en compagnie de Luxane Metz, Ismet Kurtovic, Pierre Bretagnier et Nicolas Vignol. Et nous reviendrons sur l'actualité politique particulièrement dense des dernières semaines. Nous tenterons notamment de décrypter la signature de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Nous reviendrons aussi sur l'actualité de l'Union calédonienne.
Je vous le disais en titre, les élus du Congrès étaient réunis en séance publique ce matin, boulevard Vauban. Il s'agissait, Lionel Sabot, d'examiner la décision modificative numéro 4 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2025.
Une séance extrêmement technique et surtout extrêmement courte puisque les élus sont restés en séance une dizaine de minutes seulement. Pas de débat, pas de prise de parole, si ce n'est un propos liminaire de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment du budget. Peu d'élus dans l'hémicycle, pas de débat pour examiner un texte qui a pourtant été qualifié d'extrêmement important. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du budget.
Ça évite à la Nouvelle-Calédonie d'être mise sous tutelle puisqu'il y a une règle qui est importante qui est que normalement les prêts ne peuvent pas financer du fonctionnement et donc en attente à la fois d'une décision qui sera pérenne dans le temps, on avait une décision provisoire à prendre, c'est ce texte et qui nous permet aussi de travailler sereinement avec l'État sur la transformation des prêts en subventions. Donc un texte qui a été rapide parce qu'il a été bien préparé avec les élus du Congrès, mais un texte qui était nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, le prêt est inscrit en investissement, il finance du fonctionnement, et il faut qu'on puisse transférer une partie de l'investissement sur du fonctionnement, ce qui est une écriture purement comptable, mais qui est nécessaire si on veut respecter les règles juridiques de la Nouvelle-Calédonie.
Le texte a finalement été adopté à la majorité des élus présents, 27 voix pour, 11 abstentions. Notez qu'il y avait urgence à adopter ce texte très technique, puisque ce dernier devait être absolument publié officiellement avant la fin de la journée, afin qu'il puisse intégrer ce que l'on appelle les maquettes budgétaires de la Nouvelle-Calédonie. Les maquettes budgétaires qui sont en fait des modèles de présentation et de suivi des budgets des collectivités territoriales. Ces dernières garantissent en fait la lisibilité, la comparabilité et la sincérité des comptes publics.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier. 56% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que dans cette période de crise économique et sociale, ce n'est pas le bon moment pour les syndicats de mettre la pression sur les élus. Ils sont 44% à penser à l'inverse que c'est le bon moment. Et puis voici notre question du jour. Approuvez-vous la décision du Sénat de rejeter la proposition de loi sur l'aide à mourir et de refuser notamment toute forme de suicide assisté et d'euthanasie? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Plus de sécurité, plus de prévention sur le territoire, c'est l'objectif du contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance qui a été signé ce matin à La Foi, Charlotte Coulson.
Il engage quatre communes, La Foi donc, Moindou, Saraméa et Farino, en partenariat avec les services de l'État, le gouvernement, la province sud et le parquet. Le CISPD permet de coordonner les moyens de ces différentes instances pour améliorer le cadre de vie des quatre communes. Il s'oriente autour de trois axes. Le premier est l'accompagnement à la jeunesse et aux familles. familles, avec des animations, des programmes de prévention, un soutien à la parentalité. Il prévoit également un développement du conseil municipal junior, du devoir de mémoire, tout cela dans le but de renforcer la citoyenneté. Enfin, plusieurs actions sont prévues pour améliorer la sécurité des personnes et des biens, notamment le développement de la vidéoprotection ou même la création d'un centre de supervision unique.
Au chapitre des faits divers, notez cette intervention des forces de l'ordre au centre-ville de Nouméa hier soir en raison d'un suicide. Selon les témoins, un homme a sauté du 4e étage de l'immeuble du Compact Megastore. Il est décédé des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte.
Radio Rythme Bleu, 11h35.
C'est Yoann Lecourieux, maire sortant de Dumbéa et candidat à sa propre succession, qui était notre invité du matin. Il a présenté hier son programme pour les élections municipales des 15 et 22 mars et il est revenu sur les points forts de ses projets. Le premier, c'est la sécurité dans une commune qui a été fortement marquée par les violences insurrectionnelles de mai 2024.
On va poursuivre le développement des caméras de vidéosurveillance. On a récupéré 25 qui avaient été détruites lors des événements de 2024. On a une trentaine qui vont être réalisées d'ici le mois de juin. Et donc, on propose de doubler à la fin du mandat futur le nombre de caméras de vidéosurveillance et de les porter à 150. Dès 2028, de passer le centre de supervision urbaine en H24. Et puis, à la fin du mandat, de passer à une police municipale H24 sur l'ensemble de la commune. Comme on peut le voir, on le fait de manière programmée. Je ne veux pas l'annoncer comme d'autres, que le lendemain de l'élection, ça sera H24, car financièrement, et tenant compte du contexte financier de la Nouvelle-Calédonie et de toute collectivité, c'est impossible. Et donc, il faut le faire de manière progressive, programmée. Et en plus, ça se prépare, tant au niveau de formation. Après, nous avons aussi toute une politique d'éclairage des rues. On sait qu'on a eu beaucoup, 220 points lumineux qui ont été détruits sur la commune. Les travaux ont commencé ce mois-ci, ils vont durer 5 mois pour les réparer, c'est 200 millions de travaux.
Outre la sécurité, Yoann Lecourieux veut, pour la prochaine mandature, mettre l'accent sur le développement économique.
Le développement économique, c'est essentiel, c'est l'attractivité de la commune. On va avoir la chance d'avoir d'investisseurs calédoniens qui vont investir dans un gros projet commercial dès cette année. Et donc, de l'emploi à la construction, de l'emploi après à la gestion. L'emploi, c'est nécessaire parce que la vie est chère lorsqu'on n'a pas d'emploi et encore plus cher. Donc, il est nécessaire de redonner de l'emploi aux Dumbéens tout particulièrement pour les aider à surmonter cette crise sociale que nous allons vivre encore une bonne partie de l'année 2026.
Plusieurs listes concurrentes vont également briguer les suffrages des Dumbéens, notamment une liste conduite par Cynthia Jean de Génération NC et une liste menée par Muriel Malfard. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Yoann Lecourieux en podcast audio et vidéo sur notre site internet. L'actualité dans la région avec 3 personnes interpellées en Australie, l'une à l'aéroport de Sydney, 2 autres à celui de Brisbane. Dans les 2 cas, ces voyageurs transportaient de la drogue. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Lors d'une première intervention, les agents de la police aux frontières ont contrôlé une femme de 32 ans qui venait d'arriver à Sydney sur un vol en provenance d'Afrique du Sud. L'inspection de ses bagages a abouti à la découverte de 40 kilos de méthamphétamine ou ice d'une valeur à la revente estimée à 2 milliards 600 millions de nos francs. La seconde affaire a eu pour cadre l'aéroport de Brisbane. 2 voyageurs âgés de 25 et 27 ans y ont fait l'objet d'un contrôle inopiné de la police aux frontières après avoir débarqué d'un vol en provenance de Chine. La fouille de leurs bagages a permis d'y découvrir 65 kilos d'héroïne d'une valeur à la revente estimée à 2 milliards 250 millions de nos francs. Dans les 2 cas, les agents de la police aux frontières ont alerté leurs collègues de la fédérale qui ont inculpé les 3 personnes pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la prison à vie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h40, la première pause dans ce journal. On va se retrouver dans un petit instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité à l'étranger avec une attaque américaine contre l'Iran que de nombreux observateurs jugent imminente alors que les Américains ont renforcé leur flotte militaire dans le Golfe Persique. Face à ces menaces, l'Iran a menacé de riposter et de s'en prendre notamment aux bases américaines situées dans la région. L'Union européenne, de son côté, accentue elle aussi sa pression contre le régime iranien. Les eurodéputés ont voté un nouveau train de sanctions. La plus importante est sans doute l'inscription des gardiens de la révolution sur la liste européenne des organisations terroriste. Jacques Serret pour Europe 1.
Face à l'Iran, l'Union européenne parle d'une seule voix. À Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres sont parvenus à un accord pour inscrire les gardiens de la révolution iranien sur la liste européenne des organisations terroristes. Un signal politique fort, car les gardiens ne sont pas un groupe clandestin, mais le bras armé du régime iranien. Ceux qui opèrent par la terreur doivent être traités comme des terroristes, a résumé la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas. Dans la foulée, les 27 ont renforcé leur arsenal de sanctions. 21 entités et responsables iraniens supplémentaires sont désormais visés par des interdictions de visa et des gels d'avoir. La France, longtemps prudente, a finalement levé ses réticences, permettant ce vote où l'unanimité était requise. À Téhéran, cette décision est dénoncée comme une erreur stratégique majeure, mais pour l'Europe, le message est désormais assumé. Face à un régime qui tire sur son propre peuple, la neutralité n'est plus une option.
Revenons en métropole avec cette décision qui fait grincer des dents et qui suscite beaucoup d'interrogations. Alors que le chef de l'État prêche depuis plusieurs mois la souveraineté économique, le gouvernement vient de donner le feu vert à l'État pour la cession à un groupe américain du fabricant aéronautique français LMB Aerospace. Les oppositions s'interrogent. C'est le cas du député LR Jean-Louis Thériault qui estime qu'une solution nationale ou européenne aurait dû être étudiée.
Je m'interroge si c'est très opportun de céder un des fleurons de notre industrie de défense à des fonds américains.
Les contestations aussi dans les rangs socialistes et ceux de la France insoumise. La députée LFI Aurélie Trouvé critique aussi ce renoncement de souveraineté vis-à-vis des États-Unis.
Il est d'autant plus essentiel de consolider notre indépendance militaire, notre indépendance économique vis-à-vis des États-Unis.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Le service statistique du ministère de l'Intérieur publie les premiers chiffres de la délinquance pour l'année 2025. Ils traduisent une société de plus en plus marquée par la violence, puisque 13 indicateurs sur 18 sont en hausse. Arthur Delaborde pour Europe 1.
De nombreux indicateurs dans le rouge. D'abord concernant les homicides, ils sont globalement stables, plus 1%. Mais les tentatives d'homicide, elles, bondissent de 5%, 4500 faits recensés. Autre signal fort, les refus d'obtempérer, plus 11% en un an. On passe de 24 900 faits en 2024 à 28 200 en 2025. Et plus d'un sur cinq est aggravé, c'est-à-dire avec mise en danger directe de la vie d'autrui. La drogue continue aussi de gagner du terrain. Le trafic de stupéfiants augmente de 8%. L'usage progresse de 6% en métropole comme en Outre-mer. Les violences physiques et sexuelles restent à un niveau très élevé. Les violences intrafamiliales, plus 5%, près de 257 000 faits. Les violences hors cadre familial, plus 5% également, 216 000 victimes. Enfin, les violences sexuelles, plus 8% en un an, 132 300 plaintes déposées. Un tableau d'ensemble clair, plus de violences, plus de drogues, plus de mise en danger, une insécurité qui s'installe.
Oui, parmi les victimes de la montée de la délinquance, les sapeurs-pompiers, souvent pris à partie lors de leurs interventions. 700 d'entre eux ont manifesté dans le nord, sur le périphérique de Lille, puis dans le centre-ville, où il y a eu des tensions avec les forces de l'ordre. Marc Lehoucq est le secrétaire général CGT du SDIS du Nord.
C'est tendu, en fait, on a dû venir sur le périph', on a dû venir dans les locaux du SDIS. Une mobilisation de cette ampleur, ça n'a jamais été vu. Si on a eu 700 sapeurs-pompiers du Nord qui se sont mobilisés à Lille, c'est vraiment qu'il y a des gros problèmes au niveau du département.
Les pompiers du Nord en conflit avec les responsables du département réclament plus de moyens pour leurs interventions, mais aussi de meilleures conditions de travail. Et puis terminons cette page d'actualité en métropole avec les Immortels. L'Académie française compte un nouveau membre puisque ses sociétaires ont élu Boualem Sansal pour occuper le siège numéro 3 de la vénérable institution vacante depuis la mort de Jean-Denis Bredin en 2021. L'élection de l'écrivain franco-algérien était presque une évidence, a commenté l'un des académiciens, Antoine Compagnon.
Il est élu parce qu'il a écrit beaucoup de bons romans et il est élu parce qu'il s'est comporté avec une grande, grande force morale, une grande dignité pendant toute cette période.
Période d'un an d'incarcération en Algérie, rappelons-le, l'élection de Boualem Sansal à l'Académie française n'a été qu'une formalité puisqu'il a obtenu dès le premier tour de vote 25 voix sur 26 possibles. 11h46, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité sportive.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Rouf au 25 07 00. Retrouvez le menu spécial Saint-Valentin sur la page Facebook Le Rouf.
L'Infomag continue avec le village automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au village automobile au PK4 à Nouméa.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Bodin.
Et on va commencer par le football. Lyon termine par une victoire et termine premier de la phase de groupe de la Ligue Europa, Nicolas Legrand.
Oui, porté par ses jeunes, l'OL a battu le PAOK Salonique 4-2. Ce sont pourtant les Grecs qui avaient ouvert le score à la 20e minute de jeu. Mais les Lyonnais ont su réagir grâce à deux joueurs formés au club, Rémi Imbert, 17 ans, et Ralis Mera, 18 ans, qui ont inscrit leur premier but au niveau professionnel. De son côté, Lille, qui jouait sa survie en Ligue Europa à domicile contre Fribourg, a su, eh bien, se qualifier. Les Lillois ont assuré leur qualification et signent leur première victoire de 2026. Victoire 1-0 grâce à un but d'Olivier Giroud qui a transformé un pénalty. Et puis Nice, qui était déjà éliminé de la compétition, a terminé sa campagne européenne sur une nouvelle défaite. 1-0 sur la pelouse du 3e du championnat de Bulgarie, Ludogorets Razgrad. 1-0, score final.
Et puis bien sûr, en tennis, on suivra les demi-finales hommes de l'Open d'Australie.
Oui, tout d'abord à 14h30, on suivra la confrontation entre le numéro 1 mondial et le numéro 3 à l'ATP, l'Espagnol Carlos Alcaraz qui croisera le fer avec l'Allemand Alexander Zverev sur les courts de Melbourne. Et à 19h30 ce soir, le numéro 2 de l'ATP, Jannik Sinner, sera lui opposé à Novak Djokovic. Chez les dames, on connaît désormais l'affiche de la finale qui opposera ce week-end Arina Sabalenka à Elena Rybakina. En demi, la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka a infligé une lourde défaite à Elina Svitolina 6-2, 6-3. Quant à Jessica Pegula, elle a été éliminée en 2-7 par Elena Rybakina 6-3, 7-6. Et puis, on va suivre ici aussi d'ici 10 minutes maintenant le double mixte, puisque la paire française Kristina Mladenovic-Manuel Guinard disputera la finale contre les Australiens Olivia Gadecki, John Peers.
Merci Nicolas. Il est...